Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Boroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce jeudi 29 juillet 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le président syrien et le président du Parlement iranien se sont rencontrés à Damas. Assad a salué l'Iran comme un partenaire clé pour son pays. Les forces aériennes yéménites ont lancé une attaque de drones contre le sud de l'Arabie saoudite. Et le Soudan réitère l'importance de parvenir à un accord tripartite contraignant concernant le grand barrage de la Renaissance en Éthiopie. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le président syrien et le président du Parlement iranien se sont rencontrés mercredi 28 juillet à Damas, capitale syrienne. Le président syrien Bachar el-Assad a salué l'Iran comme un partenaire clé pour son pays, soulignant que les deux nations continueront de lutter contre le terrorisme jusqu'à la défaite ultime des organisations terroristes. L'Iran est un partenaire clé de la Syrie et a soutenu le peuple syrien face à la guerre terroriste et lui a apporté son soutien dans tous les domaines, a déclaré Assad lors d'une réunion avec le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf et la délégation l'accompagnant mercredi à Damas. Le dirigeant syrien a souligné que la coordination entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme a donné des résultats positifs sur le terrain et qu'elle se poursuivra jusqu'à la libération de toutes les terres et la défaite des organisations terroristes. Pour sa part, Mohammad Bagher Ghalibaf a déclaré que les récentes élections en Syrie et en Iran et la volonté des peuples syriens et iraniens de déterminer leur avenir prouvent l'échec des politiques d'intimidation et de pression exercées contre eux. Il a souligné que personne ne peut s'opposer à la volonté de ces deux nations. Au cours de leur rencontre, le dirigeant syrien et le plus haut parlementaire iranien ont discuté des relations bilatérales étroites entre les deux pays et de leur coopération constructive à différents niveaux. Les deux parties ont souligné le rôle essentiel joué par les parlements iraniens et syriens pour ouvrir de nouveaux horizons aux relations bilatérales, notamment dans le domaine économique, en activant la coopération entre le secteur privé des deux pays de manière à aider les deux nations amies à faire face à la guerre économique et à la politique de blocus et de sanctions qui leur est imposée. À la tête d'une délégation parlementaire, Mohammad Bagher Ghalibaf est arrivé mardi 27 juillet dans la capitale syrienne pour une visite officielle pour des entretiens de haut niveau sur diverses questions, notamment la coopération économique entre Téhéran et Damas. les forces aériennes yéménites ont lancé une attaque de drones contre le sud de l'Arabie saoudite, ont rapporté les médias régionaux. Les combattants yéménites ont envoyé un drone kamikaze contre le sud saoudien. L'Arabie saoudite prétend avoir intercepté le drone avant qu'il n'atteigne sa cible. Sur le terrain, les combattants Nasser Allah ont fait une progression dans une zone située dans la province de Sana'a, Sheba et de Marib, au centre du Yémen. Ils ont lancé une offensive militaire à grande échelle contre les bases de la coalition dans l'est de la province de Baïda, au cours de laquelle ils ont réussi à prendre le contrôle de nombreuses bases stratégiques surplombant les provinces de Jebva et de Marib. Après d'intenses combats faisant rage entre les deux parties, les combattants yéménites ont pris le contrôle du mont stratégique Jabal al-Furara, dernier bastion des forces de la coalition dans le district d'Al-Noman, vers le district d'Abadia, au sud de Marib. En ce qui concerne les combats dans les zones séparant les provinces d'Al-Baïza et de Chabva, ils ont réussi à sécuriser de nouveaux sites stratégiques dans le district de Nati, vers les districts de Bayhan et Al-Ain de Chabva. Des sources sur le terrain ont confirmé que les forces yéménites avaient pris le contrôle total des jonctions de Hebta et de Sabak et du site stratégique de Shabaka dans la province d'Al-Baïza. Cela s'est produit deux jours après que les combattants yéménites aient nettoyé des sites stratégiques dans le district de Nata à l'est d'Al-Baïza de la présence des mercenaires à la solde du régime sioniste. En Syrie, un civil est tombé en martyr et d'autres ont été blessés dans l'explosion mercredi 28 juillet d'une mine terrestre abandonnée par les groupes terroristes dans les fermes de Khan Sheikhoun dans la banlieue sud d'Idlib. Le correspondant de Sana'a a indiqué qu'une mine terrestre abandonnée par les groupes terroristes avait explosé mercredi dans les fermes de Khan Sheikhoun où des civils récoltaient la pistache. Un civil a trouvé la mort et d'autres ont été blessés. À Saka, nombre d'habitants de la ville ont organisé un sit-in de protestation devant le bureau du Comité international de la Croix-Rouge pour condamner le crime de l'occupant turc qui coupe l'eau potable et en prive 1 million de citoyens dans le gouvernorat. En Cisjordanie, un jeune Palestinien blessé mercredi 28 juillet par un tir de soldats israéliens est décédé des suites de ses blessures, a indiqué le ministère de la Santé palestinien dans un communiqué. Le ministère a annoncé que Mohamed Al-Alami, âgé de 12 ans, a été tué dans la ville de Beit Omar, au nord-ouest d'Al-Khalil. Il a été grièvement blessé à la poitrine alors qu'il se trouvait dans une voiture avec son père, a précisé le ministère. Un Palestinien de 41 ans a été tué tard mardi soir par un tir israélien à l'entrée d'une localité de Cisjordanie occupée, théâtre d'affrontements entre manifestants et forces israéliennes ces dernières semaines, selon des responsables palestiniens. Samedi aussi, un adolescent palestinien de 17 ans blessé la veille dans des heurts avec des soldats israéliens est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital. Les heurts ont opposé des Palestiniens manifestant contre la colonisation israélienne et des soldats israéliens en Cisjordanie occupés, faisant 320 blessés palestiniens, la majorité par des gaz lacrymogènes, ont indiqué les services de secours du Croissant Rouge palestinien. La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël et toutes les colonies israéliennes qui s'y trouvent sont considérées illégales au regard du droit international. Plus de 470 000 personnes vivent aujourd'hui dans des colonies israéliennes en Cisjordanie. La justice tunisienne a ouvert une enquête sur trois parties, dont la formation Ennahda, pour des soupçons de financement reçus de l'étranger lors de la campagne électorale de 2019, a indiqué une source judiciaire mercredi 28 juillet. L'enquête a été ouverte le 14 juillet, avant la décision du président Kais Saied de geler les travaux du Parlement et de congédier le gouvernement. Les deux autres parties visées sont Au cœur de la Tunisie, de l'homme d'affaires Nabil Kaoui et Aïcha Tounsi. Ennahda et Au cœur de la Tunisie sont les deux premiers partis représentés au Parlement depuis les élections législatives de 2019. Le chef de file Ennahda, Rachid Ranouchi et Nabil Kaoui se sont également présentés à la présidentielle de septembre-octobre 2019 contre Kais Saied. Mardi 27 juillet, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a transmis un message oral du roi Mohamed VI du Maroc au président tunisien, dans lequel il a souligné les liens forts de fraternité entre les deux dirigeants à la lumière des développements en Tunisie, à la suite des mesures prises par le président de la République. Selon le bureau de la présidence, Kais Saied a reçu mardi après-midi au palais de Carthage Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères en visite au Maroc, en tant qu'envoyé spécial chargé d'un message oral du roi Mohamed VI. La même source a ajouté qu'au cours de cette rencontre, les liens fraternels forts entre les dirigeants des deux pays ont été soulignés et la détermination commune entre les deux pays a été renouvelée afin de continuer à travailler ensemble pour consolider les relations de coopération bilatérale et réaliser l'objectif commun des deux peuples frères à plus de solidarité et de synergie. À noter que le président tunisien a décidé d'assumer le pouvoir exécutif avec l'aide d'un gouvernement dirigé par un nouveau premier ministre et nommé par le président de la République. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le triple aveu d'Israël. L'Institut israélien d'études sur la sécurité nationale, INSS, vient de présenter au nouveau président du régime sioniste, Yitzhak Herzog, un rapport portant sur les principaux défis stratégiques auxquels Israël est confronté, ainsi que des recommandations politiques pour le second semestre 2021. À l'occasion de l'investiture de Yitzhak Herzog et à la lumière d'une longue liste de développements et de changements au niveau mondial et régional, au cours des 6 derniers mois, l'auteur du rapport, l'économiste et analyste politique israélien, Manuel Trachtenberg, a énuméré d'abord les événements les plus importants de cette période. Nouvelle administration démocrate aux États-Unis, la décision du président Joe Biden de revenir à l'accord nucléaire avec l'Iran, la formation d'un nouveau gouvernement israélien, les tensions en Israël et les affrontements entre les Arabes et les sionistes dans les villes israéliennes. Ensuite, le texte a présenté au nouveau président du régime sioniste les principaux défis stratégiques pour Israël et ses recommandations politiques. L'auteur du rapport souligne que l'Iran continuait de faire progresser l'enrichissement d'uranium au niveau les plus élevés et a commencé à produire de l'uranium métallique, adapté selon lui à un programme nucléaire militaire et non civil. Il accuse aussi l'Iran d'accumuler des capacités technologiques dans le domaine nucléaire pour développer et utiliser des centrifugeuses avancées. Le rapport prétend que l'Iran veut se présenter comme un état du seuil nucléaire avec une capacité de fabriquer une bombe atomique dans un délai de quelques mois s'il le souhaite. Le rapport de l'INSS estime que la dissuasion militaire d'Israël contre ses ennemis serait encore valable en ce qui concerne une confrontation, une guerre à grande échelle, mais il ajoute que les défis militaires et sécuritaires pourraient se produire au nord Liban et au sud Gaza. Selon le journal Mariv, qui a présenté un commentaire sur le rapport de l'INSS, cette évaluation a été confirmée par les récentes évaluations de l'armée israélienne. Un rapport publié cette semaine par l'armée israélienne indique que l'Iran continuera d'asseoir son influence en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen. Cette influence sera essentiellement militaire en déployant des armes à longue portée, missiles et drones, ou en utilisant des milices locales dans chacun des pays déjà mentionnés. Le rapport de l'INSS prétend qu'en Syrie et au Liban, le potentiel de menace augmente à la lumière de la désintégration du Liban et de la division continue en Syrie. L'auteur du rapport prétend que cette situation permettrait aux Iraniens d'approfondir leur implication et de construire une machine de guerre qui s'appuie de plus en plus sur des capacités d'attaque précises au plus profond du territoire israélien. Le rapport met en garde contre les progrès continus du Hezbollah dans les projets de missiles de précision, ce qui fait du Hezbollah une menace réelle et sérieuse pour Israël. L'armée israélienne reconnaît les progrès continus du Hezbollah dans son projet de missiles de précision et le dilemme auquel Israël sera confronté dans un proche avenir s'il doit agir pour nuire au projet du Hezbollah sur le sol libanais et ainsi prendre en compte la possibilité d'une nouvelle guerre avec le Hezbollah. L'armée israélienne pense actuellement que le temps n'est pas encore arrivé pour agir militairement contre le Hezbollah. Mais les chercheurs de l'INSS présentent l'hypothèse selon laquelle le projet de missile de précision du Hezbollah constitue déjà une menace importante pour la sécurité d'Israël. En ce qui concerne la Syrie, l'INSS estime qu'Israël doit reconnaître que la Syrie restera divisée et que tant que le président Bachar al-Assad est au pouvoir à Damas, il ne sera pas possible pour Tel Aviv de pousser l'Iran et ses alliés hors du pays. Dans le même temps, le rapport estime qu'Israël devra formuler une politique d'expulsion des Iraniens de la Syrie par le biais de la coopération internationale. Selon le rapport, Israël doit changer d'approche et formuler une politique actualisée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le et Débat. En Tunisie, le président Saïd a démis de ses fonctions le Premier ministre et a annoncé le gel des activités du Parlement pour un mois. Cette décision du président tunisien a en fait suscité diverses réactions. Il y avait surtout cette réaction du côté du parti Ennahda, du parti Ennahda, en fait le parti Ennahda qui a annoncé dans un premier temps vouloir, si vous voulez, défendre la Constitution, le parti d'Ennahda qui a accusé dans un premier temps le président d'avoir perpétré un coup d'État, mais ensuite le parti d'Ennahda a changé d'avis et mardi, le parti a appelé en fait au dialogue national pour sortir de la crise actuelle. Et du côté du président de Kais Saïd, il dit que voilà, de son objectif n'est pas, si vous voulez, de mener un coup d'État. Son objectif est d'essayer de sauver la Tunisie et le président Kais Saïd s'appuie sur l'article 80 de la Constitution qui permet au président de prendre des mesures exceptionnelles en cas de danger imminent pour le pays pour justifier sa décision. Comment peut-on expliquer ce qui se passe actuellement en Tunisie? On va vous en parler dans le cadre de cette émission avec deux invités. Avant de vous les présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage et on reviendra tout de suite après.
Le 23 juillet, soit 4 jours avant que le camp pro-US pro-Israël tente de plus en plus à décrire comme un coup d'État anticonstitutionnel du président Saïd, juriste de formation, la Tunisie, État le plus endetté du monde, puisque le printemps arabe en a fait un otage du FMI, a annoncé avoir remboursé l'emprunt obligatoire de 506 millions de dollars, 500 millions de dollars en principal et 6 millions en intérêts, soit l'équivalent de 1,412,6 millions de dinars. Le rapport affirmait surtout que l'emprunt avait comme garant les États-Unis eux-mêmes et que ce modus operandi tunisien, n'ayant pas plu aux Américains, risquait de fermer de facto toute possibilité de prêt supplémentaire, surtout que Tunis refuse de prévoir des réformes éphémistes, d'avoir même un calendrier pour de nouveaux prêts. De plus, et depuis plus de 48 heures, la population tunisienne fait la sourde oreille aux appels à la manifestation lancée à tue-tête par les fréristes. Aux dernières nouvelles, Kay Saïd bénéficie du soutien des institutions sécuritaires et militaires après qu'il a rencontré leurs dirigeants. Le mouvement semble soigneusement calculé. Ensuite, l'absence d'une prise de position directe de la part de la Confédération tunisienne du travail, l'une des branches politiques les plus influentes, indépendantes et efficaces du pays par rapport à la démarche du président. Par contre, le secrétaire général adjoint de la Confédération a indirectement soutenu le président, déclarant que ces mesures n'étaient pas contre la Constitution et que le parti a adopté une position similaire. Puis, des dizaines de milliers de personnes ne sont pas descendues dans la rue pour soutenir la coalition Ennahda, comme on s'y attendait, et le petit nombre de députés ont rejoint le président devant le Parlement après sa fermeture par les forces de sécurité. Le Tunisien Kay Saïd a intelligemment empêché les escalades et la propagation du chaos. Il a attendu que l'état de colère et de ressentiment populaire atteigne son paroxysme et que ses adversaires partagent leurs convictions sur la faiblesse du parti pour prendre des mesures décisives comme celle qu'il a prise la nuit dernière. La destitution du premier ministre dissident et le gel des travaux du Parlement plutôt que sa dissolution. Les points forts du président Saïd résident dans son indépendance, ses mains propres et les 73% des voix pour la plupart des jeunes qu'il a obtenus lors des récentes élections présidentielles, sans oublier sa non-affiliation ni direction d'aucun parti politique et son rejet catégorique de la normalisation avec Israël. Un pressentiment dit qu'à l'interne, il y aura dans les jours, les semaines et les mois à venir une désaméricanisation galopant, voire l'émergence d'un axe maghrébin anti-US Israël, anti-Grand Maghreb.
Merci, merci infiniment d'avoir choisi cette émission. On va partir tout de suite à Damas, capitale syrienne, pour rejoindre une analyste franco-syrienne. Il s'agit de Madame Aïssa Midani, qui est en ligne, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, depuis Damas avec nous pour cette émission. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Bonjour à vos invités.
Beaucoup et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Bruxelles un géopoliticien belge spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Luc Michel. Luc Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir. Bonjour à vos téléspectateurs et bonjour à mon collègue.
Merci. Votre collègue pour l'émission d'aujourd'hui, c'est Madame Aïssa Midani, Luc Michel. Madame Midani, je viens de lancer le sujet. Comment analysez-vous ce qui se passe actuellement en Tunisie, s'il vous plaît?
En fait, je trouve que c'est effectivement le président Kais Saied a eu le courage de ses idées. Et le courage de ramener la Tunisie en fait dans la voie du peuple, je dirais, puisque de toute façon cet ordre de dissolution, je dirais, ou d'arrêt ou de geler l'Assemblée nationale qui est présidée par Ennahda, qui sont les frères musulmans, ont paralysé le pays d'un côté. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que les frères musulmans ont été les grands protecteurs des terroristes. Hein. Ce sont eux qui ont recruté des terroristes qu'ils ont envoyés en Syrie et ailleurs dans le monde arabe. C'était aussi eux qui sont responsables des assassinats de deux grands leaders politiques, Ibrahim Chaibi et Chalbi. Et les deux, en fait, qui sont des grands militants tunisiens. Il y a aussi le fait que, je voudrais rappeler un fait, en fait, c'est que, et selon moi, Ghannouchi, le lendemain de la réunion du gouvernement et de la précision de l'Assemblée nationale, il est parti en cachette rencontrer Erdogan en soi-disant rencontre privée. ce qui a été soulevé par pas mal de personnalités du Parlement lui-même, lui demandant de démissionner et disant que de toute façon, ils ne sont absolument pas honorés d'être présidés par quelqu'un qui joue l'office d'un traître, hein, et qui va rencontrer des puissances étrangères juste au lendemain de la précision de la de la stratégie du pays et de stratégie de développement. Un dernier point qui est très important aussi du côté de qui milite dans le sens de qu'il a affirmé à plusieurs reprises que de toute façon toute normalisation des rapports avec Israël est une grande trahison. Et ça, c'est un point qui est très important. Et en fait, on voit que les frères musulmans jouent dans le sens plutôt d'arrondir les angles et puis d'aller dans le sens des relations avec Israël, comme on a vu en fait avec l'Arabie Saoudite, les Émirats et Bahreïn aussi. Et en fait, et même le Maroc, en fait, qui... D'ailleurs, les réactions qui se sont faites à ça, la réaction de Joe Biden en disant « Ah, nous avons un regard spécial sur la Tunisie pour la démocratie, nous surveillons de près », la réaction d'Israël aussi qui commence à dire « Là, on a peur que la Tunisie influe les positions au Maroc et puisse créer un axe au niveau des pays du Maghreb contre Israël, etc. » Donc ça, ça en dit long déjà sur la nature de cette action. Alors, un dernier point que je voudrais ajouter, il est certain, et il faut le savoir, que la majorité du pays, au niveau du peuple, hein, la majorité est avec le président Qaïs Saïd. Ce qui a poussé d'ailleurs à Mardor à se ranger du côté du dialogue national et à refuser aussi, après avoir appelé à des manifestations importantes, etc., pour la démocratie. Comme ça n'a pas marché, et bien maintenant, il se range aussi du côté du dialogue national, disons.
Merci beaucoup, Madame Midaniseva. En fait, le parti Ennahda a appelé en fait au dialogue national pour sortir de la crise actuelle. Madame Midani, vous avez en fait exprimé votre point de vue sur en fait les positions d'Ennahda et les portes en fait de Presse TV français sont ouvertes également aux responsables du parti Ennahda s'ils souhaitent par exemple s'exprimer sur ce que vous venez d'expliquer comme analyse, comme point de vue sur en fait notre groupe de chaîne, mais quand même en fait les positions et les points de vue des experts toujours c'est comme ça sur notre chaîne Presse TV n'engage que même. C'est pourquoi en fait les responsables du parti Ennahda également peuvent, s'ils le souhaitent en fait, s'exprimer sur notre chaîne. Luc Michel, venez d'entendre l'analyse de Madame Midani. Votre analyse, s'il vous plaît.
Écoutez, la Tunisie, c'est l'échec de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Ça a été un des premiers pays touchés, et depuis, c'est un pays en catastrophe nationale. Le tourisme, qui était la principale revenu, il a du plomb dans l'aile. La stabilité politique existe, et le terrorisme a fait son apparition. Quel était le plan de départ du printemps arabe américain? C'était d'associer les partis des frères musulmans à parfois des composantes militaires ou des composantes nationales. Au bout de maintenant 10 ans, c'est un échec complet. La conjoncture actuelle, ça fait que les frères musulmans n'ont plus le vent en poupe. Vous avez vu que pour la première fois, un pays en Europe, c'est l'Autriche, a interdit les frères musulmans purement et simplement. Et la Tunisie, maintenant, est un nouvel échec. Il faut constater qu'en ce moment, la Turquie d'Erdogan, qui est le parrain des frères musulmans, Erdogan dirige une véritable internationale avec une branche militaire c'est les organisations Tafkiris que nous appelons djihadistes en Europe, et une branche politique qui sont les frères musulmans, justement, avec leur variante arabe directe ou leur variante libyenne, comme les confréries Sedoussi. Aujourd'hui, Erdogan a été rappelé à l'ordre, il a été remis dans le cadre des activités de l'OTAN, il a été obligé de faire profil bas avec la France, avec la Grèce, et aussi avec l'Égypte, qui est l'allié des États-Unis dans la région. À partir de ce moment-là, ce qui arrive aux frères musulmans, c'est également le rétropédalage des Turcs, c'est-à-dire que le parapluie turc qui protégeait les frères musulmans, il n'est plus aussi effectif. Ils vont voir maintenant si d'autres pays vont suivre, donc pays européens qui ont interdit les activités des frères musulmans, mais on sait qu'il y a actuellement un très grand scandale politique en Belgique. En Belgique, il y avait une commissaire du gouvernement nommée par le gouvernement régional bruxellois actuel. La Belgique, c'est un État fédéral. C'était une militante arabe proche des frères musulmans. Elle a été dénoncée par un rapport de la Sûreté de l'État. Elle a dû démissionner. Et maintenant, on en a fait, l'aile droite du gouvernement bruxellois a fait de ce dossier un dossier de priorité nationale. C'est donc maintenant le deuxième pays européen où on s'intéresse aux frères musulmans. Vous avez vu que la loi française vise à la fois actuellement sur le séparatisme, elle vise à la fois les frères musulmans et les confréries turques du genre Miligorus ou du genre des Lougris. Et donc ce qui se passe maintenant en Tunisie est très intéressant puisque c'est le transfert de cette offensive pour les frères musulmans dans le territoire arabe, ici en Afrique du Nord. Maintenant, l'aspect purement tunisien, évidemment, la population est fatiguée, elle est épuisée par la crise économique qui est purement la résultante du printemps arabe, qui a été en fait un hiver glaciaire. Et donc, il est tout à fait normal que le président ait tenté ce coup de force. Le but, c'est de reprendre la main, d'éjecter les frères musulmans de la vie politique et de se faire soutenir par une majorité. C'est l'un des dossiers les plus intéressants à suivre actuellement dans le monde arabe, mais aussi en Europe occidentale.
Madame Midani, sur le plan de la politique intérieure, comment analysez-vous cette décision du président tunisien de limoger, de démettre de ses fonctions le Premier ministre et d'annoncer le gel des activités du Parlement pour une durée d'un mois en invoquant l'article 80 de la Constitution, je viens de le dire tout à l'heure au début de notre émission, qui dit que voilà, lorsque le pays est confronté à un danger imminent, cet article permet, si vous voulez, au président de la République de prendre des mesures exceptionnelles, Madame Midani.
Tout à fait. Effectivement, le pays était en danger imminent puisque de toute façon tout était paralysé et on n'arrivait pas à se sortir de ce schisme où ça allait présumer un schisme du pays. Donc, le président a pris les devants avant qu'il y ait la catastrophe pour le faire. Et, bon, bien sûr, il y en a qui crient au coup d'État, etc., puisque l'interprétation de ces conditions, nécessaires à l'utilisation de cet article de la Constitution n'est pas nécessairement contraignante, je peux dire. L'explication n'est pas évidente pour tout le monde. Mais le président a cette prérogative et il a ce droit. Il a jugé que la situation était suffisamment grave qu'il est dans l'obligation de sauver le pays en prenant cette décision et surtout en levant, disons, en essayant de geler toutes les décisions, surtout de l'Assemblée nationale qui est présidée par Amarda, par Al-Renouchi. Et d'ailleurs, on suivait un certain, et puis le Premier ministre, mais aussi on suivait un certain nombre de limogeages de personnalités qui sans doute reviennent à Marda et qui ont occupé aussi des postes les plus importants, notamment le poste de responsable de la compagnie du gaz et de l'électricité, qui sont vraiment la colonne vertébrale de l'économie tunisienne, de l'économie en général. Donc, en fait, c'est une décision que je pense être effectivement salvatrice, hein. Et on espère que le président Kais Saïd a un plan de redémarrage du pays et puis qui soit clair et qu'il va pouvoir mettre en application rapidement de manière à permettre aux Tunisiens d'avoir non seulement la sérénité au niveau de leur avenir, mais surtout d'avoir un minimum de solutions pour leur vie quotidienne, qui n'a cessé de s'aggraver d'ailleurs depuis le début de ce que vous appelez le printemps, de ce qu'on appelle communément le printemps arabe, et qui a été une volonté effectivement de casser tous les pays arabes et de les disperser et puis de les transformer en état d'échec. Voilà. Je pense que le président Saïd a aussi cette envergure. Il a aussi, quand on voit ses positions jusqu'à présent, on voit qu'il est plutôt pour le retour vers l'arabité, vers le nationalisme arabe et vers les pays qui résistent et qui s'affirment, et vers la souveraineté de la Tunisie, une souveraineté totale, donc vers laquelle il aspire.
Mmh. Luc Michel, vous l'avez dit, Madame Midani aussi, là, d'évoquer en fait ce dialogue national s'avère désormais important, d'autant plus que le président tunisien est appuyé, en jugé par des sondages et des analyses, et par la majorité de la population. Surtout, il est appuyé par les jeunes tunisiens. Alors, le résultat de ce dialogue national, Luc Michel, s'avère en fait décisif et important pour la Tunisie, également pour la région, n'est-ce pas, Luc Michel?
C'est très important parce que actuellement, il y a en Afrique du Nord, à cause de la Libye, une zone d'instabilité importante qui se prolonge vers le Mali et vers la Centrafrique, où à la chute de la Jamahiriya, les Français, les Américains ont appliqué des scénarios à la Libyenne. Vous savez qu'il y avait même un Conseil national de transition, comme on met Benghazi à Bangui. Donc, il faut maintenant essayer de rétablir de l'ordre dans la région. Il y a un point de stabilité qui est l'Algérie, mais malheureusement, l'Algérie est contrebalancée par le Maroc. Le Maroc, c'est le point d'entrée des Américains en Afrique du Nord. Et le Maroc a le statut d'allié privilégié de l'OTAN. Il y a eu des grandes manœuvres qui se sont tenues il y a 3 semaines, qui s'appelaient Lion Africain 2021. Elle unifiait l'armée américaine, l'Africom, l'armée marocaine, une dizaine d'armées africaines. Ils ont déployé des troupes aux frontières de l'Algérie, du Sahara espagnol, du Sahara ex-espagnol, mais surtout du Mali. Le but, c'était évidemment d'essayer d'intimider les Russes, en particulier les colonels pro-russes de Bamako. Donc, voir ici la Tunisie échapper à l'orbite des frères musulmans, c'est-à-dire actuellement échapper à l'orbite de la Turquie. Il ne faut pas oublier qu'à partir de 2019, la Turquie, qui est la deuxième armée de l'OTAN, elle n'est pas venue seulement appuyer les kafkiristes à Tripoli, elle a repris le contrôle de la Libye en grande partie pour le compte des Américains et de l'OTAN. Voir donc cette Tunisie échapper à cela, et je l'espère se rapprocher de l'Algérie, ça peut constituer un pôle de force pour ramener la stabilité dans la région. Actuellement, cette stabilité n'existe plus. Il y a une grande zone d'instabilité qui s'étend aujourd'hui du golfe de Sirte en Libye jusqu'au golfe de Guinée. Il y a actuellement une opération occidentale de déstabilisation du golfe de Guinée. Il est donc important que sur la partie, le versant du golfe de Sirte, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie et la Libye, un pôle de stabilité se rétablit. C'est moi ce que j'attends malheureusement de ce qui arrive à la Tunisie. La Tunisie, comme la Libye, ce sont des pays, évidemment, qui payent de plein fouet ce soi-disant printemps arabe. Ils connaissent la misère, ils connaissent le chaos, ils connaissent le terrorisme, ils connaissent les frères musulmans. Il est temps que tout cela s'arrête. Ce qui laisse un espoir principal, c'est que le printemps arabe a été possible parce qu'il y avait le mécontentement de la jeunesse. La jeunesse a été manipulée, notamment par les organisations de George Soros. Dans tous les pays, elles se sont lancées à l'assaut des régimes nationalistes arabes. Ça aboutit à une catastrophe. Voir maintenant la jeunesse tunisienne revenir derrière un président qui défend ce nationalisme arabe, c'est un signe d'espoir.
Merci. Merci beaucoup, Luc Michel, géopoliticien belge, spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à Madame Aïssa Remidani, analyste franco-syrienne, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
L'idéologie est la pratique des courants takfiristes. L'élimination des chefs djihadistes a-t-elle des impacts? Le ministère français des armées a annoncé avoir tué deux dirigeants de l'État islamique au Grand Sahara. La neutralisation de ces deux chefs aura-t-elle des conséquences? Tuer des chefs a toujours un impact à court et moyen terme. Après, tout dépend. Quel genre de chef? Affirme le journaliste Wassim Nasr, spécialiste des mouvements djihadistes. Il rappelle que plusieurs chefs djihadistes ont été tués par les militaires français dans le nord du Mali les dernières années. Bahag Moussa, décrit comme le chef militaire du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et un cadre historique de la mouvance takfiriste au Sahel. Le chef du groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, Abdelmalek Droukdel, et Baye Agbakabo. Mais Wassim Nasr nuance ensuite ses propos, expliquant que la mort de ce leader takfiriste n'a toujours pas été un réel, plus dans la lutte antiterroriste. Quand le prédécesseur de Abu Bakr al-Baghdadi, Abu Omar al-Baghdadi, mort le 18 avril 2010, donc le précédent calife de Daesh, a pris ses fonctions en 2010 en Irak. C'était un professeur de théologie. Les Américains avaient baissé la prime sur sa tête et il venait de tuer donc ses prédécesseurs, à lui, le numéro 1, le numéro 2, dans une opération commando. Donc, personne ne savait que le Baghdadi, en 2010, allait faire ce qu'il a fait ailleurs. Donc, c'est une loterie. Ce n'est pas une science exacte. Les groupes takfiristes qui écument le Sahel disposent d'énormes moyens financiers et matériels. C'est pourquoi la mort de quelques-uns ne supprime pas toutes ces sources de financement. Mohamed Amara est enseignant-chercheur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines à l'Université de Bamako et chercheur au Centre Max Weber de l'Université Lyon 2. Selon lui, il y a la zakat, c'est-à-dire la dîme qu'ils prennent localement dans toutes les zones où ils sont présents. ils prélèvent une sorte d'impôt local. Et ça alimente leur activité terroriste. S'ajoute à ces deux sources le paiement des rançons pour la libération des otages, ajoute Mohamed Amara, auteur de l'essai « Le Mali rêvé ». Mais il y a aussi la responsabilité des pays arabes du Golfe Persique. Mohamed Amara pointe aussi du doigt la responsabilité des pays du Golfe Persique et estime que 80% des sources de revenus de cet aquiriste proviendraient de là-bas. Des chiffres difficiles à vérifier. Ce dont doute d'ailleurs le journaliste Wassim Nasr. À l'en croire, les pays arabes du Golfe Persique financent la prédication salafiste et financent parfois des groupes qui sont proches des frères musulmans en ce qui concerne le Qatar. D'ailleurs, pour Al-Qaïda et pour Daesh, les pays du Golfe Persique, y compris l'Arabie Saoudite, les gouverneurs de ces pays sont des gouverneurs apostats, des mécréants, et ils sont à liquider. Donc, ils ne touchent pas de financement de ces pays du Golfe Persique. Les Émirats, l'Arabie Saoudite et Bahreïn ont en 2017 rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar et fermé leurs frontières terrestres et maritimes avec le richissime Émirat gazier pour son soutien aux takfiristes. C'est ce que Doha a toujours nié. Dans ce contexte, la mort de deux dirigeants de l'État islamique au Grand Sahara apparaît ainsi comme un nouveau coup donné à l'organisation, mais certainement pas de quoi pour autant l'arrêter dans ses activités. Plusieurs dizaines de djihadistes tués au Burkina Faso. L'opération Épervier, effectuée dans l'est du Burkina Faso, a permis de neutraliser une trentaine de terroristes la semaine dernière. Un soldat burkinabé et plusieurs dizaines de takfiristes ont été tués la semaine dernière lors d'une opération de l'armée visant à sécuriser la zone de Majohari dans l'est du Burkina Faso, a annoncé l'état-major dans un communiqué diffusé lundi soir. Au cours de cette opération, menée dans la zone de Pama et Majohari, près de la frontière avec le Bénin, un binôme de soldats à moto a été victime d'un engin explosif improvisé lors d'une mission d'infiltration le 21 juillet 2021. Un soldat a été tué et l'autre blessé, a précisé l'état-major des armées. Dénommée Épervier, cette opération conjointe des forces spéciales, appuyée par des unités conventionnelles de l'armée, qui a également nécessité des moyens aériens, a permis de débusquer et de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes selon l'état-major. Une trentaine de terroristes ont été neutralisés au cours de cette opération, dont l'objectif principal était de rechercher et neutraliser les groupes armés terroristes qui menacent la quiétude des populations, a précisé à l'agence France-Presse une source sécuritaire. Une importante quantité d'armes et de munitions ont été saisies, ainsi que des engins explosifs et du matériel de campement, a souligné l'armée, qui ajoute que des opérations de ratissage se poursuivent dans la zone. Le Burkina Faso, comme ses voisins le Mali et le Niger, fait face depuis 2015 à des attaques takfiristes régulières et meurtrières, en particulier dans les régions du nord et de l'est. Les attaques avec des engins explosifs improvisés qui sont multipliés depuis 2018 ont coûté la vie à plus de 200 personnes civiles et militaires, selon un décompte de l'agence France Presse. Ces attaques, souvent couplées à des embuscades et attribuées aux groupes takfiristes affiliés à Daesh et à Al-Qaïda, ont fait plus de 1500 morts et contraint plus de 1,3 million de personnes à fuir leur foyer.